Radio. Campus. Paris.
Que vous soyez ou non fan de Britney, nous sommes le lundi 11 décembre, il est 18h01. Vous écoutez Radio Campus Paris en FM et sur le web, et à 18h, c'est toujours l'heure de la relève.
La relève, un lundi sur deux à 18h, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Bonsoir, 30 minutes avec un jeune talent d'aujourd'hui et surtout de demain, c'est toujours le Paris deux fois par mois quand tout va bien. De la relève, et ce soir on ne fera pas exception. Ce soir on va parler de montagnes d'attente, mon invité est écrivain. Bonsoir Basile Mutsiba.
Bonsoir.
Merci d'être dans nos studios ce soir. Votre premier roman hors saison est publié aux éditions Gallimard. Il a été publié à la fin de l'été, au mois d'août si je ne m'abuse, pendant la fameuse rentrée littéraire. J'ai bon pour l'instant ?
Exactement.
C'est un exploit pour moi. Vous vous sentez introverti, je vous pose cette question parce que les premiers mots de votre livre, vraiment les premiers mots, c'est la dédicace, et que vous faites, vous, à la place des habituels pour maman et autres à l'amour de ma vie, vous dédiez votre livre, à ce très étonnant, aux introvertis.
Oui, j'ai longtemps hésité avant de le mettre. Je l'avais en tête depuis un moment, en fait, au moment où j'écrivais le roman, le manuscrit. Et j'ai décidé de mettre effectivement cette dédicace ou cette adresse, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est effectivement adressé, qui me concerne, qui me parle, puisque aujourd'hui, ça va, voilà, je me le sens peut-être un peu moins, mais pendant une grande partie de ma vie, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu, sur lequel j'ai un peu travaillé, cette introversion. Et puis, en fait, pour moi, c'est aussi une manière d'entrer. Déjà un peu dans le livre, c'est une adresse, mais c'est aussi un premier pas dans l'histoire, puisqu'on va suivre la trajectoire de ce personnage principal qui, en tout cas, au début du roman, je ne sais pas s'il est introverti, mais en tout cas, il a une certaine distance vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde. Il a besoin de s'en extraire.
Vous pensez que les introvertis voient le monde différemment ? Qu'il y a une spécificité de leur regard ?
Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a... on a tendance parfois à avoir, entendre en tout cas une lecture du monde entre des personnes qui seraient introverties avec besoin d'une mise à distance, qui ne sont pas forcément dans une forme, qui peuvent être dans une forme de discrétion, et d'autres personnes plus extraverties qui vont être tout de suite dans une socialité très forte, très à l'aise, etc. Et du coup, voilà, c'est quand même quelque chose qui peut être structurant dans notre rapport aux autres, dans notre rapport au monde. Après, évidemment, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué que ça, souvent, et on navigue toujours selon les moments, les périodes entre ces deux pôles, voilà, exactement. Mais en tout cas, voilà, cette adresse, je trouvais ça intéressant parce que c'est une clé de lecture, et puis c'est aussi quelque chose que je voulais aussi réconfortant à la lecture ensuite de l'histoire pour des personnes qui pourraient se reconnaître dans cette dédicace.
D'ailleurs, il y a un moment dans l'ouvrage, je crois que c'est Joachim, Hans qui dit au personnage principal, Yann, et on va tout de suite parler de tous ces gens-là, mais juste, je continue sur mon idée, qui lui dit à un moment, avec toi, je veux bien parler parce que avant de dire quelque chose, tu réfléchis et tu observes. Oui, il observe toujours d'abord.
Oui, c'est Hans qui dit cela à Yann, qui est le personnage principal.
Alors, c'est comment de publier un premier roman à votre âge ? Vous avez l'air très jeune. Est-ce que c'est un moment difficile ? Est-ce que c'est comme vous l'imaginiez ?
Je pense que c'est d'abord une sorte de... Enfin, c'est un peu bête de dire ça, mais c'est vrai. C'est vraiment une sorte de rêve qui se réalise, parce que c'est quelque chose, quand on écrit, qu'on fantasme énormément malgré soi. On se dit...
Vous fantasmiez la rentrée littéraire ?
Je fantasmais pas la rentrée littéraire, je fantasmais le fait que le livre existe un jour. Et de le voir en librairie, de l'avoir dans les mains, et de me dire, mais ça doit être incroyable de vivre ça. Et quand on écrit, et tous les moments de doute qu'on traverse, quand on a un manuscrit qu'on va envoyer, on n'espère qu'une chose, c'est qu'il soit pris, enfin qu'il parle à un éditeur, une éditrice. Et quand ça arrive, c'est énormément de joie. Et une joie que, en tout cas, moi, je cherche à cultiver vraiment au quotidien depuis que le livre est sorti il y a plus de trois mois maintenant. Même dans le tourbillon un peu d'une rentrée littéraire qui est quand même un moment assez intense émotionnellement où on passe par pas mal d'émotions. Quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé ? À quoi vous ne vous attendiez pas, par exemple ? Je sais pas, une réaction de la presse, une rencontre avec le public marquante ou...
Enfin, en tout cas, j'espérais tout ça. J'espérais que le livre ait
un certain
écho. Ouais, je crois. Hein. Enfin, il y a eu pas mal d'articles dans la presse. J'ai eu l'occasion de vraiment aller en librairie, de pas mal me déplacer, de faire des festivals, de rencontrer du monde, de rencontrer aussi des personnes qui l'avaient déjà lu. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que quand le livre est sorti, je me disais, mais finalement, enfin, voilà, qui va aller comme ça en librairie lire un premier roman, etc., de quelqu'un qui ne connaît pas. Et en fait, il y a eu des personnes qui derrière sont venues en librairie et qui m'en ont parlé avec beaucoup d'enthousiasme, d'émotion, parfois avec des questions. D'autres choses aussi qui m'ont beaucoup touché, c'est des hommes, des femmes qui l'avaient reçu en cadeau. de la part de leurs enfants parfois ou d'amis. Et je trouve que ça aussi, c'est des rencontres assez spécifiques parce que pour ces personnes, je sentais en tout cas qu'il y avait tout de suite, il y a un rapport plus intime avec le livre en fait, quand on l'a offert. Et voilà, et comme c'est un livre qui parle aussi d'une forme d'intimité, en tout cas, moi, c'est des rencontres qui m'ont déjà pas mal marqué, quoi. Ouais.
Vous attendiez ce moment depuis longtemps. Je vous pose la question parce que dans votre roman, vous avez cette très belle et paradoxale formule. Vous évoquiez le désir de continuer à attendre. Est-ce que ça faisait longtemps que vous-même vous attendiez ?
Le temps est étrange hein, quand on écrit et qu'on envoie ce manuscrit, qu'on attend. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout s'est passé très vite. Parce que j'ai commencé à l'écrire vraiment il y a peut-être, 4 ans. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça est passé très vite. J'étais dans le moment de l'attente, c'est quand même un moment il faut pouvoir accepter cette attente. Ouais, surtout le moment en fait entre où on a commencé à l'envoyer, on attend des réponses et on les espère et voilà donc finalement même le temps d'écriture, j'ai l'impression qu'il s'est écrit très vite et je ne me souviens pas passer ces soirées ou ces dimanches. Assis à mon bureau à l'écrire, alors que je sais que des personnes qui me sont proches m'ont dit « Mais si, en fait, t'as passé beaucoup de temps. »
Mais c'est peut-être parce qu'au moment où on écrit, on est dans une autre dimension. Dans une sorte de... Pas de transe, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, dans un moment où on est bien, on est là où on doit être et on ne voit plus le temps passer.
Le temps passe vite. Après, il y a des moments aussi où on doute, où on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce que je fais là ?» En fait, ça n'a pas l'air très bien, je ne suis pas très convaincu. Bon, j'avance quand même, on verra. Mais il y a quand même... Le temps passe vite. Pas toujours parce qu'on est dans un enthousiasme fou. Parfois, c'est aussi parce que on est dedans et on doute ou alors on est content, etc. Enfin...
On vient à votre roman Hors saison, à Yann, son héros ou anti-héros, vous nous direz. Mais d'abord, est-ce que vous diriez que vous avez écrit un roman d'apprentissage ?
Quand j'essayais justement de le définir en quelques mots, c'est un peu le terme que j'utilise. Aujourd'hui, je le dis un peu moins parce que j'ai un peu plus de temps pour raconter l'histoire et à travers ça, on comprend qu'il s'agit effectivement d'un personnage qui va grandir. Mais effectivement, le terme roman d'apprentissage me semble toujours à peu près correspondre, ouais, bien sûr.
Vous prenez d'abord, je vais vous demander qui est Yann, d'expliquer à nos auditeurs qui est Yann.
Alors Yann, c'est un jeune homme qui a un peu plus d'une vingtaine d'années. Il habite une grande ville en bord de mer, plutôt dans le sud de la France, et il décide d'un peu du jour au lendemain de suspendre ses études, les études qu'il est en train de faire, il est étudiant en médecine, et de partir faire une saison à la montagne au début de l'hiver, à peu près dans cette période-là d'ailleurs. Il part et pendant les premiers chapitres, il pourrait partir demain matin, exactement.
On le voit, il est dans le train, et il vient de s'asseoir dans le train quand il part.
Effectivement, il part, c'est une fin de nuit. Il prend un des premiers trains.
C'est le début de la nuit.
Mais disons, voilà, une fin de nuit où il fait encore, tout est encore assez sombre. Et les premiers chapitres, on le voit naviguer un peu dans la ville, prendre le train qui va vers la montagne, qui a du retard. Et on le suit comme ça, arriver aussi à la montagne, puis monter en station, etc. Et finalement, au départ, le train prend plus de temps que ça pour arriver. Ce qui fait que finalement, déjà même son premier trajet jusqu'à la station est déjà finalement un moment où on va apprendre à le connaître et aussi suivre un peu cet état d'âme, où il en est de sa vie, puisqu'il part de manière brutale en ayant... plus ou moins informé ses amis, sa copine, qu'il allait partir, et où on sent qu'il il fuit quelque chose.
Il a
oublié son portefeuille. Voilà. Donc il y a pas mal de choses où on comprend qu'il est dans un moment de déséquilibre, en tout cas dans sa vie, il a besoin de s'extraire de tout ça. Et du coup, on le suit, et il va arriver dans cette station de montagne, il va rencontrer Hans, qui est... un patron d'un petit hôtel qui l'a embauché, il va rencontrer d'autres saisonniers, donc Joachim dont vous avez parlé tout à l'heure, et il va comme ça tisser des relations. Et la particularité de cette saison, c'est que la neige n'est toujours pas là et que tout le monde se met un peu à attendre la neige pour que la saison démarre réellement, et cette neige va tarder à tomber à tel point que ces après-midi vont s'étirer, et lui donc va être immergé dans cet environnement montagne mais aussi dans la nature et avoir l'occasion de se pencher un peu plus sur les raisons de son départ, ce qu'il vient chercher ici et finalement qui il est et qui il veut devenir. Donc c'est un peu ça le point de départ du livre, dont les enjeux, je pense que moi j'avais envie que les lecteurs ou les lectrices puissent être tout de suite très très immergés auprès de Yann et suivre avec lui tout un peu ce cheminement et ses actions, ses découvertes, ses relations qui se tissent à mur de la saison.
Alors moi je trouve que vous n'avez pas fait dans la facilité, puisque votre livre raconte un voyage immobile, celui de Yann, dont les motivations sont opaques et au lecteur et je crois d'abord à lui-même. Est-ce que vous avez mis toutes ces contraintes pour échapper à un roman psychologisant ou psychologique à la française classique, ou est-ce que c'est juste que vous aviez envie de raconter cette histoire-là de cette manière-là?
Je pense que c'était... J'ai trouvé assez vite dans l'écriture la manière dont je voulais raconter cette histoire. Et je pense que ça peut parler à des personnes, je pense que ça parle à des personnes où parfois, sans forcément qu'on puisse mettre des mots sur ce qu'on ressent, eh bien, on a l'impression que voilà, il faut qu'on parte, qu'on s'extrait un peu de notre quotidien, qu'on s'échappe, peut-être pour aller essayer de trouver des réponses. Et c'est ce qui se passe pour Yann et ce départ, puis cette immersion dans la montagne, dans la saison, auprès des autres. Tout ça, j'avais envie de le décrire en passant par la manière dont est perçue la montagne, la nature, les décors, et que plutôt que de finalement décrire son état psychologique avec des monologues intérieurs, je voulais que ça passe par la manière dont la montagne, la nature est perçue. En fait, le rapport sensible qu'il entretient avec le paysage, avec l'environnement, et que c'est ça en fait qui traduise les états d'âme de Yann, peut-être de manière différente que le ferait un monologue intérieur, et peut-être, je pense, de manière aussi plus subtile, plus sensuelle aussi, de passer par cette relation avec la montagne, et que tout ça dialogue en fait l'intérieur de ce personnage, cet état d'âme, ses émotions, avec le monde de la montagne qui, lui aussi, finalement, est bouleversé à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de neige et que ça a des répercussions assez concrètes sur la vie à la montagne, dans une station.
Justement, et qu'est-ce qui... Ce que je veux dire, pardon. Au départ, là, son premier rapport avec la montagne, c'est qu'il se perd. Il croit qu'il est à côté de la station et on est obligé de venir le chercher parce qu'il est sur le point de... En tout cas, peut-être pas de se perdre, mais de dormir au bord de la route à cette période de l'année. Et puis, peu à peu, il va découvrir, il va comprendre aussi comment fonctionne cette montagne. Cette manière dont il apprivoise la nature qui vous intéressait, cette manière dont il la fait sienne, dont il va finalement communiquer avec elle. Au début, il ne la connaît pas du tout.
Oui, en tout cas, j'avais envie qu'on découvre tout ça avec lui. Et je pense que finalement... dans sa trajectoire, et ça c'est ce qui m'intéressait au fil de l'histoire, c'est qu'il arrive dans cet environnement de la saison qui est très codifié, avec plein de relations sociales établies. Lui, il arrive avec l'œil de la découverte, avec une curiosité, une ouverture au changement et à la nouveauté, à tel point que quand finalement tout ça va être bouleversé par l'absence de neige, lui va finalement sentir qu'il trouve là une forme d'ancrage, que en fait finalement ce quotidien qui est complètement décalé par rapport à ce qu'il devrait être, pour lui c'est l'occasion de trouver des réponses sur qui il est et quelle relation il veut avoir avec les autres. Et il y avait en tout cas cette idée que parce qu'il est finalement, il découvre tout ça, il est inconnu, il va être aussi plus à l'aise à s'adapter finalement à un monde qui change, et à un monde qui change de manière peut-être durable. Et finalement, c'est aussi ça que je trouvais intéressant. Il y avait un peu une relation croisée entre lui, ce qu'il trouve, et puis les personnes qui sont déjà là, qui connaissent l'environnement.
Plusieurs critiques que j'ai lues en préparant l'émission, remarquez que votre livre s'intéresse aux saisonniers. Il y avait aussi une volonté de faire... Alors, c'est vraiment pas... Vous appartenez... On ne peut pas dire que c'est un roman social. Je pense que vous serez d'accord avec moi. On ne sent pas une enquête comme chez Zola, par exemple, où vous auriez travaillé... Peut-être que vous avez travaillé comme saisonnier. En tout cas, vous avez pas... on n'a pas l'impression que vous avez des tonnes de documentation. Peut-être, vous me direz, si vous en avez fait. Mais est-ce que c'était aussi important pour vous de parler de ces gens-là dont on ne parle jamais, ou...
En tout cas, moi, les...
Ou c'est un monde que vous connaissiez, que vous aviez trouvé intéressant ?
Je pense qu'il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient. D'une part, c'est que je voulais que la montagne, l'environnement des stations, existe aussi à travers les gens. Pour moi, c'était très important d'ancrer le récit aussi dans, finalement, cette trajectoire individuelle de ces personnages secondaires, que sont des saisonniers qui interagissent avec Yann. Et pour moi, c'est une manière vraiment de faire exister ce territoire de manière forte. Et du coup, chaque saisonnier... finalement, chaque personne qui travaille a un rapport particulier avec la montagne et avec cette situation d'absence de neige. Ils ont chacun aussi un rapport différent avec leur propre travail. Et je trouve que dans le monde des saisonniers, en tout cas, il y a une forme d'intensité assez forte dans le rapport au travail, dans les relations sociales, qui est en fait assez différente, finalement, d'un travail salarié plus habituel. Et c'est aussi ce qui explique aussi le décalage que va vivre Yann, en fait, en changeant finalement d'environnement. Il va vivre ce décalage. Donc il y avait aussi cette distinction. Et l'autre chose aussi qui me paraissait intéressante, c'est que Yann, il est dans un moment où justement il a besoin de s'extraire de son quotidien, de son rapport aux autres, de ses amis, de tout ce qu'il connaît, pour s'échapper finalement dans un endroit où il a besoin d'être seul, et en même temps dans un endroit où il y a énormément d'interactions sociales très fortes. Et le roman, Yann fait un peu sans cesse cet aller-retour entre le collectif et des moments où il est plus seul. Et c'est aussi un livre sur la solitude, en fait. Ou en tout cas, sur quel est le juste équilibre entre être pleinement avec les autres, de manière très intense. Il y a des scènes de fêtes, il y a des scènes de repas, des scènes d'apéro, etc. Et des moments où il a besoin d'être seul. Et où se situe ce point d'équilibre. Et ça, c'est un des enjeux du roman, en tout cas pour le personnage principal.
Pourquoi ne pas avoir plus incarné, on parle beaucoup de nature, on parle beaucoup d'endroits, pourquoi vous n'avez pas incarné dans une station précise, vous n'avez pas dit clairement d'où il venait? Ça reste des lieux très vagues, finalement.
Effectivement, la station n'est pas nommée. Même la ville d'où il est originaire n'est pas nommée. Le trajet qu'il fait en train n'est pas précisé.
C'était un choix? Vous vouliez qu'à chacun se projeter où il voulait?
C'était un choix que je trouve... qui pour moi était une manière de ne pas mettre à distance en fait l'histoire et le lieu pour le lecteur. Disons que quand c'est pas nommé, chacun peut y trouver des ressemblances avec des endroits qu'il connaît. Ça peut faire appel à des souvenirs que les lecteurs et les lectrices ont vécu. Du coup, il y a une proximité, voire une intimité qui se crée avec les lecteurs et les lectrices et avec l'histoire. Et c'est assez formidable en fait de dire des gens, moi je viens souvent, je connais pas les Alpes, par contre les Pyrénées je connais beaucoup, ça m'a beaucoup rappelé un endroit que je connaissais. D'autres m'ont dit non, moi j'ai vu le Jura par exemple. Et du coup, je trouve que le livre comme ça est très ouvert et très généreux avec les lecteurs et j'aime beaucoup cette proximité que ça crée. Et puis il y avait aussi, c'est pas nommé dans l'espace mais non plus dans le temps. On devine que c'est un peu de nos jours, mais il n'y a pas d'année précise, etc. Et du coup, je trouvais que c'était une manière aussi de capter peut-être non pas ce qui s'est passé ou ce qui peut se passer à tel endroit, à tel moment, mais plutôt l'esprit un peu du temps aujourd'hui, en fait, de ce monde qui est en train de changer peut-être de manière durable. Et je voulais aussi finalement qu'on s'intéresse plutôt à cette atmosphère un peu plus large plutôt qu'à un événement précis.
C'est vrai que s'il n'y avait pas de téléphone portable, ça pourrait presque se passer au 19e siècle. Hein. On est toujours avec Basile Mulciba, qui est l'auteur de Hors saison aux éditions Gallimard. Vous êtes plutôt La montagne magique ou Shining, vous?
C'est vrai que c'est deux références qu'on me cite assez souvent.
Alors Shining, je peux vous dire pourquoi, parce qu'à un moment, il a peur d'être pris en otage par l'hôtel et je me suis dit, oh là là, on va virer dans le fantastique, ouais, peut-être. Il y a un moment où...
L'hôtel est un peu... Voilà, est un endroit très important, puisqu'il vit dans l'hôtel. Hans, qui est un personnage aussi très important du livre, son patron, est propriétaire de cet hôtel, et l'hôtel prend une place assez importante. Effectivement, il y a un moment donné, quand, au fur et à mesure de l'histoire, l'absence de neige...
Il a des décisions à prendre, peut-être. Il est peut-être aussi dans un entre-deux, lui.
Exactement, en fait, parce qu'au fur et à mesure de l'absence de neige, bien, des saisonniers perdent leur travail, la station commence un peu à se vider. Et pour Hans, ce personnage qui prend vraiment de l'importance au fil de l'histoire, lui aussi va être confronté à un moment donné, il va devoir faire des choix sur cet hôtel dont il a hérité, dans lequel il pensait s'accomplir en disant mais c'est ça mon patrimoine, c'est ça que je dois faire, cet héritage que je dois maintenir à flot. Il se retrouve aussi à se poser la question de est-ce que vraiment pour l'avenir c'est dans ça que je veux poursuivre ma vie, est-ce que finalement c'est pas le moment de revoir mes choix, mais aussi peut-être de partir ou de repartir. Voilà, ce patrimoine un peu qui vacille était aussi un point important. Et du coup l'hôtel est une manière aussi d'ancrer l'histoire dans une réalité économique concrète. Et du coup, je pense que c'était important d'avoir cet équilibre entre peut-être une dimension plus intime, mais aussi un ancrage dans la réalité de ces territoires.
On va écouter un peu de musique. Yeah. Voilà, c'était Lio, Les Voyages Immobiles, une chanson écrite par Étienne Daho. Étienne Daho qui la reprendra lui-même. Et une chanson qui n'est pas sans évoquer l'univers romanesque de Basile Mulciba.
La Relève sur Radio Campus Paris, 93.9 FM et sur le web.
Je ne vais pas vous demander si Lio fait partie de vos chanteuses préférées, mais quelles sont...
Étienne Daho, par contre,
effectivement. Alors, ça va. J'ai hésité entre les deux versions, puis finalement, j'ai pris celle-ci, parce que je la trouve très jolie, chantée par une femme aussi. Mais quels sont vos auteurs Alors, les auteurs de chevet, c'est une formule... c'est pire qu'un cliché, là, je ne sais même pas ce que c'est, mais... En tout cas, quels sont les auteurs que vous aimez?
Alors, en tout cas, auteurs, les livres qui gravitent un peu autour de hors-saison, donc il y a Thomas Mann... qui moi me parle beaucoup. D'ailleurs, qu'à un moment donné, Yann lit un des livres de Thomas Mann.
Il lit un autre.
Il en lit un autre. Il lit pas La Montagne Magique, il en lit un autre.
Qu'on lui prête. C'est pas par hasard, donc.
Et puis même, les échos vont un peu plus loin, d'ailleurs, parce que, je pensais que les gens allaient plus m'en parler, mais les deux personnages principaux de La Montagne Magique qui s'appellent Hans Castor, qui va rendre visite à son cousin dans ce sanatorium qui s'appelle Joachim. Et dans le livre, il y a deux personnages qui se nomment aussi comme ça. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose, un écho assez, assez fort. J'ai hésité à les garder. Finalement, je me suis dit, non, mais j'ai trop envie de le faire.
Tout le
monde va voir ça. Et en fait, les gens m'en parlent pas trop. Comme quoi, voilà, c'est peut-être pas si évident entre les intentions qu'on lui met.
Je trouvais juste que les personnages avaient des prénoms qui ne correspondaient pas à votre âge pour un premier roman.
Ah oui.
C'était juste ça qui m'intriguait. Est-ce qu'on aurait lu le même roman s'il était parti au bord de la mer ou à la campagne, selon vous? Non.
Suis pas sûr. On m'a déjà posé la question. Je suis pas sûr. Moi, je pense que la montagne, il y a quelque chose de grandiose, de vertigineuse, qui correspond bien en fait, je trouve, à l'état d'esprit du personnage, à ce qu'il cherche. Et je pense que la question de la neige aussi est quand même quelque chose d'assez fort dans le livre, dans notre rapport aussi au monde, dans notre rapport aux saisons, à ce qu'il devait arriver et à ce dont on dépend et en réalité qu'on ne maîtrise pas. Et je trouve ça. D'ailleurs, il y a plusieurs moments dans le livre où les personnages parlent de ça et de dire que, en fait, c'est dingue à quel point finalement on pense prévoir avec certitude et en fait à chaque fois la neige ou la nature échappe en fait à la maîtrise des hommes et en même temps une économie énorme repose là-dessus. Et je trouve que en tout cas là les personnages sont confrontés à ça
c'est la dimension politique de votre roman. Est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'il y a une dimension politique?
Je sais pas s'il y a une dimension
sur
politique.
La vanité la vanité humaine qui croit maîtriser quelque chose alors qu'il suffit qu'il ne neige pas.
En tout cas, je ne sais pas s'il y a une dimension politique. En tout cas, il y a un état de fait.
En même temps, pardon, je vous coupe la parole, mais certes, les projets ne s'accomplissent pas, mais peut-être des choses plus intéressantes
Exactement.
Peuvent s'accomplir.
En fait,
peut-être arriver à une nature, à des désirs plus profonds.
L'histoire. Ce que j'avais envie de montrer, c'est que pour ces personnages, effectivement, ce qui devait advenir n'advient pas, c'est-à-dire cette neige et cette saison, mais dans cette attente et finalement dans ce qui apparaît a priori comme une catastrophe, finalement, de cette catastrophe émerge autre chose peut-être de plus essentiel pour ces personnages, un rapport aussi différent, renouvelé, plus profond avec la nature, avec les autres, et aussi une forme comme si Yann trouvait sa juste présence au monde, en fait. Et qui il était, et ça, voilà, ça émerge parce que, quelque part, il y a eu ces bouleversements, il y a eu ces choses qu'on n'avait pas prévues. Et dans ce temps qui n'est pas prévu, qu'est-ce qui se passe pour nous, en tant qu'êtres humains, de manière plus intime? Et effectivement, il émerge des choses assez importantes pour les personnages de cette...
Je vais être un peu provocateur, un tout petit peu provocateur, c'est pas mon genre très provocateur. Ça veut dire qu'une catastrophe, ça peut être une chance? Si on sait,
je pense que c'est difficile de dire ça pour des gens. Je pense qu'on peut, pas. Je sais pas trop. L'histoire, en tout cas, il y a des choses qui émergent au-delà de cette.
Au-delà de cette absence de neige. Le bonheur d'interviewer des primo-romanciers, c'est qu'on sait très peu de choses sur eux. Vous, la quatrième de couverture, vous décrit comme né en Bretagne, grandi en Guadeloupe et aujourd'hui habitant à Paris. Alors, en cherchant un peu sur Internet, on trouve quelques détails sur vous, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous vous présentez par une géographie. Parce que c'est vous qui l'avez écrit, la quatrième. Enfin, en tout cas, cette présentation, vous qui l'avez proposée. Vous définissez par des lieux et vous écrivez un livre sur la montagne. J'ai trouvé ça étonnant. Je me suis demandé quelle place occupait la géographie dans votre vie.
une place importante. Enfin, j'ai fait des études de géographie et pour moi, l'entrée dans la fiction et dans le roman passe d'abord par un ancrage dans un lieu. Mais un lieu qui n'est pas juste un décor, mais qui est un lieu qui est vivant et qui fait avancer l'action dans lequel les personnages sont complètement baignés. Et pour moi, le lieu ou la géographie est très... Il y a beaucoup de sens, en fait, dans les lieux. Et tout le propos du film, c'est de faire ce lien très fort entre...
T'as dit du film,
c'est vrai. Ah, du film, oui, parce qu'il y avait aussi une histoire de cinéma dans cette aventure. Mais oui, ce lien très fort avec les lieux qui sont des lieux...
C'est-à-dire que vous pensez que les lieux nous forment, nous définissent peut-être pas, mais en tout cas, ils font une partie de ce qu'on est dépend d'eux.
En tout cas,
vous n'auriez pas été le même si vous aviez grandi ailleurs, par exemple.
Ah, je pense. En tout cas, je pense qu'en tout cas, il y a une vraie relation assez forte qui peut se faire avec les lieux. Ça dépend dans les deux sens. Je pense que, en tout cas, dans le livre, il y a à la fois peut-être la montagne et ce paysage un peu bouleversé qui peut-être influe sur les éléments du personnage, tout comme finalement la manière dont sont rendus compte les paysages nous renseigne aussi sur ce par quoi passe Yann. Et je trouve qu'il y a ce dialogue qui est assez fécond, en tout cas, pour le roman.
Bretagne, Guadeloupe, Paris, il n'y a pas de montagne. Hein. C'est vraiment pour vous l'ailleurs absolu, la montagne, c'est l'exotisme total.
Je pense que ça correspond à je parlais de découverte tout à l'heure. Moi, j'ai découvert la montagne aussi à peu près à l'âge du personnage. Et la montagne, la vraie, la grande, parce que en Guadeloupe, il y a aussi des montagnes qui sont bien plus modestes.
Il n'y a pas de neige aussi.
Il n'y a pas de neige.
Non, je me suis posé la question.
Non, il n'y en a pas. Donc pour moi, cette découverte assez grandiose, elle a eu lieu à ce moment-là. Et du coup, ça m'a tout de suite parlé, d'autant plus dans des moments, je pense, où autour de 20 ans, 21 ans, on est dans des moments en réalité où les choix qu'on fait en termes d'études, de relations sociales, amoureuses, peuvent être assez déterminants sur la suite de notre vie. Et voilà, et parfois dans ces moments-là, on doute en fait. Et du coup, de douter dans un endroit aussi fort, je trouvais que moi, il y avait là une résonance assez intéressante.
Vous ne doutez plus sur la suite de votre parcours d'écrivain. On ne va pas parler de carrière, c'est un trop vilain mot. Vous allez continuer, vous avez envie déjà d'écrire le suivant?
J'avais commencé à écrire un deuxième roman alors que je n'avais pas encore la réponse de Gallimard pour celui-là. Donc je continue sur cette lancée.
Vous continuez ? Bon, ben, très bien. Merci beaucoup, Basile Nsiba, d'être passé par le studio de Radio Campus. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Hors Saison, un premier roman très étonnant et très singulier aux éditions Gallimard. Merci d'être passé. Voilà, c'était La Relève, préparée, présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Pablo, avec un beau salut à Alison ce soir. Vous pourrez bientôt retrouver cette émission sur le site de Radio Campus Paris, rubrique La Relève. En attendant, vous pouvez réécouter toutes les premières de la saison. Le programme de Radio Campus est jusqu'à 19h. À 19h, c'est la matinale de la radio. Et nous, on se retrouve dans 15 jours et figurez-vous que ce sera le jour de Noël. D'ici là, bonne soirée, à bientôt.